Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. On l'a surnommé le Black Jack Brel avec son timbre grave et chaud. Ce natif de Ségou au Mali s'est imposé comme un rappeur poète dont les mots squattent les oreilles de ses fans depuis bientôt 25 ans. Il vient aujourd'hui dans VMDN nous présenter son nouvel album, 15 titres en clair-obscur qui nous parle d'amour, de musique et de rap, de sa life et du temps qui passe. La nuit du réveil d'Oxmo Puccino est disponible chez Believe et vous m'en direz des nouvelles.
Ah, ce père qui rêvait de fils diplômé auquel on a si peu pardonné. Toute une enfance à marmonner. Ceux qui se tirent dessus sont-ils paumés? Artiste à mon insu et le mépris, rappé à n'importe quel prix. Puis t'apprends comme tomber de balançoire. L'argent n'est pas une fin en soi. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté d'un autre. Ma rime, une femme jugée à sa jupe. Le succès ne nous a pas assagi. Le droit de chanter,
les cas. Bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour, bonjour.
Le droit de chanter avec la trompette du grand Eric Truffat, c'est par ce titre que l'on entre dans ce nouvel album. Pourquoi le droit de chanter et pas le droit de rapper?
Parce que j'ai toujours assimilé le rap à la chanson. Et j'ai vite compris qu'en fait on faisait la différence pour des points de vue sociaux ou des images qu'on se construit par les fausses idées.
Et pas tellement pour des raisons artistiques.
Jamais.
Alors le rap est-il ou est-il un rap, est-il une chanson comme les autres, Oxmo Puccino?
Je dirais plus que c'est une chanson de notre temps. Voilà, le rap est une chanson de notre temps. Je dirais c'est comme ça qu'on chante aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'on fait toujours la distinction entre le rap et la variété. Alors la variété, c'est pas forcément un mot qui a bonne presse en France. Vous le reprendriez à votre compte? Vous êtes aussi, si vous êtes chanteur, est-ce que vous êtes aussi un chanteur de variété?
Je ne sais pas du tout, parce que moi, en ce qui me concerne, je fais des propositions artistiques et on les nomme comme on veut. Voilà, et c'est souvent la manière dont les nomme qui, pour moi, prête à confusion, parce que l'essentiel, c'est que ça plaise, peu importe comment on l'appelle.
On a trop tendance à poser des étiquettes aujourd'hui.
À qualifier et disqualifier souvent avec un manque de connaissance des termes employés.
Donc vous êtes rappeur et chanteur, qu'on se le dise.
Oui,
et voilà, on va continuer à utiliser les deux mots indifféremment jusqu'à la fin de l'émission.
Selon la préférence.
Mais alors tout de même sur ce titre, le droit de chanter, Oxmo Puccino, vos mots sont quand même un petit peu amers, quoi. Vous avez été moqué car vous évitez les gros mots. C'est ce que vous nous dites. Vous parlez de certains accueils qui pincent les lèvres et vous ajoutez, rapper, c'est être tristement célèbre.
Mais oui, tout à fait. C'est des choses que j'ai constatées avec le temps. J'ai dit que rapper, c'est être tristement célèbre parce que lorsque vous êtes dans une assemblée et que chacun fait part de son métier, donc on parle de musique et puis lorsqu'on pose des questions plus précises, moi je dis que je suis dans le rap. Et là, tout de suite, j'essuie tous les clichés qu'on peut asseoir sur le rap depuis des années, alors que j'ai rien à voir. Donc je me sens un peu coincé. Et je dis ok car j'évite les gros mots, parce que j'ai toujours été à contresens de ce qu'on pouvait attendre en général et de moi. Et donc c'est vrai que lorsqu'on correspond pas au code, peu importe leur couleur, ça pose problème tout de suite.
Mais pourquoi justement être à contresens? C'était pour vous construire différemment des autres ou bien parce que vous n'approuviez pas tout simplement la vague, le sens dans lequel allait le rap?
Tout d'abord, c'est parce que c'était pour me démarquer, forcément, pour être original. Et ensuite, c'est parce que la direction que prenait le rap en général ne me convenait pas du tout. Et donc, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai travaillé avec des musiciens d'un autre univers.
Pourquoi est-ce que le rap a une si mauvaise image? Oxmo Puccino, c'est la faute du public qui se trompe et qui met des étiquettes ou c'est un peu aussi la faute des rappeurs?
Tout le monde a sa part de tort, mais je dirais que d'un autre côté, il faut pas globaliser. Voilà, sans aller au cas par cas, il faut pas se servir d'un avis pour en faire une généralité.
Alors dans cet album Oxmo Puccino, par exemple, il y a un titre qui s'appelle La peau de l'ours et à l'intérieur de cette chanson, vous citez Booba.
Oui.
Booba, vous avez travaillé avec lui, ça remonte à quelque temps déjà,
oui.
C'était dans Pulp Fiction en 1997.
Oui.
Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de quelqu'un comme Booba?
Je trouve qu'il a fait ce qu'il a dit, qu'il a suivi son plan de carrière, que ça peut être remarquable, et que pendant longtemps il a été la référence dans le rap français.
Voilà. Il ne l'est plus ?
Je ne sais pas, parce que le temps passe, les générations changent, et ben forcément les stars aussi, les nouveaux, tout change, tout évolue.
Mais quand vous dites plan de carrière, Oxmo Puccino, c'est pas très gentil, plan de carrière. Vous avez un plan de carrière?
Non,
aussi
mais c'est-à-dire que c'est ce que je dis souvent. Enfin, quand on parle de Booba, c'est dit que si vous écoutez ses textes de ses débuts, vous n'êtes pas surpris par ce qu'il chante aujourd'hui ou ce qu'il fait aujourd'hui, parce que ça correspond totalement. Il a pas menti sur ses projets.
Bon, vous allez vous produire avec Harris bientôt au Festival Révolution, hein, pas ensemble sur scène, mais enfin vous serez ensemble dans le même festival. Vous avez pris parti entre lui et Booba, vous avez choisi votre camp.
Disons que si je m'entends avec tout le monde dans le milieu de la musique, parce que ça s'étend du rap à la variété, à la musique africaine, enfin je voyage beaucoup, c'est justement parce que j'essaie de m'entendre avec tout le monde, tout le monde a un côté un peu moins facile et un autre côté plus avenant. Donc moi j'essaie de rentrer en connexion avec le côté le plus lumineux. C'est pour ça que je m'entends assez bien avec tout le monde. Oui, c'est préférable. Je suis pas dans le conflit. Mon avant-dernier album s'appelait L'Arme de Paix et c'est la direction que j'ai prise définitivement. Donc quelle que soit ma position, c'est toujours dans la calmie, de toute façon.
Mais les battles, les fights, etc., ça fait partie aussi de la culture rap. Historiquement, faut tourner la page.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que
c'est un cliché aussi.
La chose c'est que pour moi, le rap est une musique qui marche de manière exponentielle parce qu'elle parle aux jeunes avant tout, et aussi parce que ça a toujours été la musique qui reflétait la société de la manière la plus immédiate. C'est-à-dire que peu importe notre vision qu'on a de cette musique, il faut savoir qu'elle draine un public de plus en plus nombreux, de plus en plus jeune, et que ce public, ce public se divertit dans la société dans laquelle elle a grandi. C'est-à-dire que ce qu'on peut reprocher aux rappeurs, donc qui reflètent la société, c'est d'abord la société qui leur a insufflé. D'ailleurs, la violence qu'on peut reprocher à un rappeur, vous avez qu'à regarder les informations, vous lisez les journaux, les premières unes, il y a des images, la compétition du divertissement dans laquelle sont entrés beaucoup de médias fait que ça fait une surenchère une surenchère d'informations, avec souvent une mise en scène qui tend plus à la mettre en valeur que dans la forme que dans le fond. Voilà. C'est l'époque dans laquelle nous sommes, dans un divertissement à outrance, quel que soit le sujet, quelle que soit la gravité du sujet. Donc, la compétition qu'il peut y avoir dans le rap, on peut l'appliquer à celle qui se trouve dans la vie actuellement. Vous allez sur tous les réseaux sociaux, chaque compte social est une compétition comparative par rapport au compte d'après. C'est notre société qui est comme ça. Il faut être le plus beau, il faut être le plus pertinent, le plus intelligent, enfin le plus présent sur les réseaux.
Il faut avoir des likes, faut avoir aussi un
beau
salaire,
faut être aimé, voilà la plus belle femme, le plus bel homme, faut avoir les plus beaux vêtements, avoir les derniers cris. Ouais, avant il y avait deux saisons dans la mode. Aujourd'hui, il y en a quatre. Et il faut suivre. Voilà. Et pour moi, les rappeurs sont, je le répète, le reflet de la société. Ce qu'on peut reprocher aux rappeurs, nous force à regarder la société avec du recul.
Quand j'arrive, tu peux qu'applaudir, sinon tu m'écoutes pas. Meilleur rappeur français du monde, c'est un constat. Les petites frappes qui bluffent s'arrêtent à 9999. Agir ou attendre son tour. Que se demander ce qu'on fout sur terre à 10 000 jours. On te juge à tes têtes, alors j'accélère. On travaille souvent en dessous de son salaire. La question est crue, combien tu vaux par jour? Tu cherches un sale tour quand c'est le prix de ton costume. Tu bégayes, 10 000 quoi, laisse-moi siffler. Les problèmes commencent quand ils sont chiffrés. 10 000 quoi, 10 000 heures, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000 quoi, 10 000 heures. Je sais pas compter, heureusement j'ai le mot minime. On pleure pour un mort, mais plus pour 10 000. 10 000 quoi, 10 000 heures, 10 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000 quoi, 10 000 heures, 10 000 euros. Quand on aime, on compte pas, toi tu peux compter sur qui? T'es entouré de crocodiles, moi de 10 000 amis. C'est pas une question de coronesse. Pour être honnête, j'ai pas le temps que des honoraires. T'en as marre de bosser après 10 000 heures. Tu vas l'apprendre, c'était que les préliminaires. Yeah.
tu cries pendant qu'elle simule. Et tu vas payer, t'as cru que c'était fusionnel. Les chiffres, ça rend l'amour intentionnel. On facture le résultat, pas le potentiel.
10 000 fois, 10 000 euros, 10 000 fois, 10 000 euros.
Passe l'agneau, frimeur, on arrive à 5 000, ça fait 10 000 buveurs. 1000 fumeurs de weed, ignorer ses limites, ses rêves au lieu de toucher ce qu'on mérite. Trop d'artistes sont morts au générique, parce qu'avant 1000 fans, ils vont viser la mérite. Qu'ils soient 10 ou 10 000, j'avance avec un public de fou. Mon public a du feeling, ils en rêvent tous. Ah, t'es tellement nul.
10 000, nouvel extrait de La Nuit du Réveil, le nouvel album d'Oxmo Puccino qui est avec nous aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Alors, on l'a compris, hein, vous êtes beaucoup plus lettres que chiffres, Oxmo Puccino. Vous êtes d'ailleurs, je crois, un grand lecteur, un amateur de livres. Qu'est-ce que vous lisez d'ailleurs en ce moment ?
En ce moment, je lis un journal de Karl Kraus, qui est donc un écrivain, journaliste, je sais pas du quel siècle, mais très brillant et que je ne connaissais pas du tout. Et j'apprécie parce qu'il a un ton sec. Voilà, je regarde ça, je lis.
Donc c'est l'écriture qui vous intéresse d'abord, c'est le style, c'est les mots, c'est l'ambiance, la tonalité qui se dégage du livre.
Exactement, la musique que ça raconte. La musique que ça raconte, la manière dont ça témoigne de son époque, et puis les personnalités, des personnalités marquantes qu'on peut trouver tout au long de l'histoire de l'homme, qui reste quelque chose, une sorte de ciment dans lequel est constitué l'homme qui va transmettre le flambeau pour les prochaines générations.
Et comment est-ce que vous passez vous-même de la lecture à l'écriture ? Par la musique, précisément, puisque vous
évoquiez
ça ?
Non, pas du tout. La musique, pour moi, c'est un support. Et je fais la part des choses entre le texte et la musique. Donc j'ai la chance de pouvoir profiter d'un outil qui me permet de lier les deux. Mais avant de trouver la musique, beaucoup de textes existent déjà dans mes carnets.
Donc vous avez besoin de lire, vous avez besoin d'écrire aussi. C'est vraiment le mot besoin qu'il faut employer. Il y a un côté un peu graphomane chez vous. On vous imagine en train de noircir comme ça des feuilles à la suite.
Oui, tout à fait. Lorsque je discute avec quelqu'un qui j'échange des conseils ou des avis, je lui demande s'il est en train de prendre des notes. Parce que on dit des choses importantes qu'il va oublier. Et ça ne sert à rien de les oublier. Donc, il faut le noter pour s'en servir plus tard. Et moi, lorsque je sors des carnets qui ont déjà quelques années, je lis des choses que je suis surpris d'avoir notées, et je remercie le ciel de les avoir notées, et ça s'étend comme ça sur des dizaines de carnets.
Donc vous avez comme ça un petit carnet en permanence j'en avec vous. Vous en avez dans votre sac, là, en ce moment ?
Oui, j'en ai un, bien sûr.
Vous en avez
bien
un. Pouvez-vous nous dire la dernière chose que vous avez notée sur ce carnet ?
Allez-y,
vous allez prendre le carnet, on va voir déjà à quoi il ressemble. Alors évidemment, j'espère que c'est pas des choses trop privées, hein, vous allez les partager en direct avec les auditeurs de RFI. Alors, voilà, le temps d'arriver à la bonne page, voilà, bah ça y est, vous y êtes. Est-ce que vous pouvez nous lire les quelques mots que vous avez griffonnés sur ce carnet ?
Masterclass de l'importance de lire, du bagage culturel et l'obstruction mentale.
Voilà, on est pleinement dans le sujet, là. Depuis le début de cette émission, on parle que de ça. Hein.
Voilà, c'est, heureusement que vous n'avez pas demandé d'autres pages. Mais c'est ce que j'ai fini par écrire. Voilà, parce que, quelquefois, j'ai la chance de participer à des ateliers d'écriture. J'aime pas appeler ça atelier d'écriture parce que c'est trop générique. Oui. Donc, je suis parti sur la masterclass. Et je suis en train de chercher une forme à cette mise en contact avec des amoureux de l'écriture.
Mais alors là, dans les carnets, vous écrivez évidemment à la main. Est-ce que lorsque vous écrivez une chanson, vous avez aussi besoin de la plume, du stylo, ou vous utilisez un clavier d'ordinateur ?
Ça dépend du temps et de l'outil que j'ai en main, mais je préfère largement partir du manuscrit, parce que ça ne sera jamais la même écriture. Il n'y a pas la même réflexion derrière un stylo et de l'encre qui se dépose sur une feuille que derrière un clavier qui finit sur un écran.
Oui, ça veut dire
digital.
Qu'il y a toujours de la réflexion derrière vos mots. C'est-à-dire que vous n'avez pas une écriture instinctive, pulsionnelle, spontanée. C'est au contraire une écriture très réfléchie,
c'est une
très ciselée.
Très réfléchie, oui. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, je réfléchis encore plus qu'avant de dire. Donc, oui, le mot qui arrive sur la feuille n'est pas là par hasard. Il mérite sa place et l'encre qu'il a utilisée.
Et au fur et à mesure que votre carrière se déroule, Oxmo Puccino, vous élaguez, vous épurez vos textes. C'est souvent le cas, hein, d'ailleurs, des écrivains. Ils ont plutôt tendance à écrire de façon extrêmement touffue, extrêmement foisonnante.
Oui, oui, oui.
Et puis, plus ils progressent, plus ils essaient d'arriver à l'os, d'arriver vraiment à la substantifique moelle.
Moi, je pense que la jeunesse fait qu'on est dans une démonstration. et qu'on a de l'énergie à utiliser à profusion, et forcément ça finit un peu partout. Et avec le temps, on comprend que le silence fait du bien au propos et qu'il le rend beaucoup plus clair, sans perdre en puissance par rapport au bruit, tout simplement.
Ouais. Et vous avez besoin du silence aussi pour écrire ?
Ah oui, bien sûr. Je me nourris du silence. Je me nourris du silence parce que c'est dans le silence qu'on se retrouve le mieux aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose qui se fait assez rare lorsqu'on habite en ville. Et pour moi, c'est très précieux.
Et donc, vous écrivez la nuit, j'imagine. La nuit du réveil. Tôt le matin.
J'écris au réveil.
Voilà,
oui,
au réveil.
Au réveil.
Et quand vous écrivez précisément au réveil, c'est parce que vous avez bien dormi ou c'est parce que vous n'avez pas tellement dormi ? Est-ce que vous avez besoin d'une insomnie
Non, pas du tout. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil pour avoir toute l'énergie et l'esprit clair pour pouvoir rêvasser et marquer, noter.
Alors votre nuit à vous, celle dans laquelle vous nous emmenez dans cet album, elle est un peu en clair-obscur. Je voudrais que vous commentiez la pochette. On vous voit avancer comme ça, tout habillé, Oxmo Puccino, vous êtes de dos, hein, vous êtes tout habillé dans la mer, vous avez l'eau à la hauteur du genou, un petit peu au-dessus peut-être, et vous allez vers la lumière, vous allez
Exactement.
Vers le soleil
Exactement.
À l'horizon. Alors moi je me suis demandé, c'est le soleil couchant ou c'est le soleil qui se lève ?
C'est le soleil qui se lève.
Ah, c'est donc l'espoir, alors.
Exactement, c'est l'espoir. Pour moi, c'est l'espoir évidente. Voilà, l'espoir évidente qui résulte de la vision qu'on peut se faire de la fin d'un parcours, pour peu qu'on y arrive et qu'on ait les moyens d'y arriver avec un peu de chance.
Alors, sur la pochette de l'album, il y a donc la mère M.E.R., mais dans cet album, il y a aussi la mère M.E.R.E. et le père. La chanson s'appelle Le Nombril.
On a tous commencé comme ça. Une rencontre et soudain se retrouve de responsable. Mes futurs parents logent au 43, rue des Poissonniers, bientôt nous serons trois. Très vite les premières nausées, avec un frère défunt je suis comme un exaucé. Mental fort, embryon fragile, calme, les prochains mois seront moins difficiles. Nous ne sommes que des conséquences, notre passé commence avant la naissance. J'écoute le monde à travers le nombril de ma mère. Dehors, je serai l'incompris. 17e semaine, mes oreilles formées garderont les bas, la font sonner. Sacrifice de poulet, chant céleste. La vieille l'a prédit, je serai célèbre. Papa, arrivé à 17 ans, pour l'instant, culturellement distant. Plus tard, il m'apprendra les couleurs. Depuis, je suis avant d'être à l'heure. Je suce mon pouce, point fermé. C'est la pression de fils aîné. Ma mère va rejoindre la famille. D'ici 2 ans, je remets les pieds à Paris. Du nombril, mon hublot, je vois ses goûts. L'aller-retour cause ma carte de séjour. Un gros bébé se sent à l'étroit. 6 mois, maman tient plus son dos droit. J'ai plus de papy, mes ongles et tempes sont presque 8. Papy rouge, mamie. 35 degrés à l'ombre des baobabs. Yes, papa.
Le nombril. Retour sur vos parents, Oxmo Puccino, sur votre naissance à Ségou au Mali, sur votre arrivée en France, hein, dans la suite de cette chanson quand vous étiez tout petit. Le petit Abdoulaye avait à peine 1 an, hein, quand il est arrivé à Paris.
Oui, c'est ça.
Vous y retournez souvent au Mali aujourd'hui?
Oui, j'essaie d'y retourner minimum. Je fais pas 1 an et demi sans y aller. Oui, pour des raisons familiales ou musicales.
Besoin de se ressourcer?
Besoin d'y retourner parce que j'ai la famille, j'ai les amis, et puis ceux qui y sont déjà allés comprennent qu'il y a cette chose là-bas qui fait que on se retrouve et qu'on a besoin d'y aller pour de prendre l'habitude d'y aller.
Votre inspiration est aussi nourrie par le Mali ?
Par le voyage en général et forcément par le Mali, oui. Oui, oui.
Le voyage, c'est-à-dire que c'est le fait de se déplacer qui vous permet d'avoir des images en tête de la poésie et d'écrire des idées.
Oui, c'est-à-dire que on peut avoir un train de vie qui fait que on ne prend jamais de distance avec ce qu'on engrange pour pouvoir rester créatif et voyager dans un prétexte à être ailleurs et nulle part, et donc on vous laisse tranquille et vous n'êtes pas dérangé par rien vu que vous êtes en déplacement Et c'est le meilleur moment pour moi pour créer librement, parce que vous êtes nulle part et ailleurs, exactement.
Alors dans cette chanson, le nombril, vous évoquez donc le Mali, et puis donc Paris, 19e arrondissement, un quartier Danube, du côté du métro Place des Fêtes. « J'ai grandi sous l'héroïne, près du canal de Lourdes », écrivez-vous dans une autre chanson de cet album qui s'appelle « Je reviendrai pas », c'est la dernière chanson d'ailleurs de l'album. Bon, « J'ai grandi sous l'héroïne, près du canal de Lourdes », qu'on se dise, ça n'a pas été facile tous les jours.
Non. Ça n'a pas été facile.
Ne fait pas rêver ceux
qui grandissent. Oui. Ben ça n'a. Moi, je pense qu'en général, la vie n'est facile pour personne, et que la notion qu'on peut avoir de la difficulté qu'on traverse n'est qu'au rapport d'autres choses, ou d'autres vies, ou d'autres exemples. Donc, moi, j'ai grandi sous les ruines près du canal de Lourdes, mais je ne savais pas que quelque chose d'autre existait. Donc, j'ai grandi sous une inquiétude, mais c'est devenu une question d'habitude. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, ah oui, en fait, c'était difficile. Voilà. Mais oui, j'ai grandi sous le ruine près du canal de Lourdes. Les années 80 ont été marquées par le 19e, enfin Paris, dans les années 80, a été marqué par cette drogue. Aujourd'hui, c'est le crack. Voilà, on change de matière. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a empêché de tomber du mauvais côté?
Les parents, sûrement les parents. Sûrement les parents et quelques-uns bien intentionnés du que j'ai pu croiser sur mon chemin. Des bons professeurs, des bons animateurs sociaux. Des bons grands frères aussi, voilà.
On a besoin de références, on a besoin de phares, de quelqu'un en qui l'on croit pour vous guider.
Tout enfant en a besoin pour se construire. Oui, à défaut de ses parents, il cherche ailleurs et avec un peu de chance, il tombe sur les bons, oui.
C'est vrai qu'aujourd'hui, Oxmo Puccino, pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques années déjà, maintenant vous avez un peu l'image d'un sage, du type raisonnable, et c'est vrai que votre voix d'ailleurs qu'on entend au micro des RFI depuis le début de cette émission participe un peu de ça, quoi, ce timbre grave, posé, qui semble comme ça sortir des profondeurs. Il y a une forme de sérénité dans cet album, le flow est peut-être un petit peu plus doux encore que d'habitude.
C'est vrai. C'est ce que je veux partager. Vous savez, moi, c'est un des objectifs suprêmes de ma vie, la sérénité. Vous savez, ça passe tellement vite, vaut mieux que ça se passe bien. Donc je mets de l'effort là-dedans, oui, pour que ça se passe mieux que possible.
Mais est-ce que vous êtes assagi?
Assagi, j'étais pas.
C'est pas un mot que vous aimez, ça, assagi. Hein, parce que dans une des chansons, vous dites le succès ne nous a pas assagi.
Oui, je sais pas ce qu'on veut dire par assagi.
Ça veut dire que vous étiez pas sage avant et que vous l'êtes un peu plus aujourd'hui.
Je suis le même. On évolue, mais assagi, ça revient à dire que je l'étais pas, alors que on reste les mêmes en fait.
Bon, vous dites aussi, je suis trop âgé.
Oui,
alors pourquoi vous dites ça?
Je suis né trop âgé.
C'est terrible, ça. Vous êtes né vieux.
Oui, je suis né vieux. J'ai l'impression d'être né vieux. J'ai toujours eu un avis sur les choses à partager. J'ai pas toujours pu en parler avec les gens de mon âge longtemps auparavant.
Vous étiez plus mature que les autres.
J'avais des avis avec j'avais des choses auxquelles je pouvais difficilement discuter. J'avais quelques amis avec qui je le pouvais, mais ça courait pas les rues, non, bien sûr que non.
Bon, mais aujourd'hui vous avez 45 ans, c'est pas vieux 45 ans. Rassurez-moi parce que j'ai le même âge.
C'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue.
Et vous regardez en arrière ou devant vous?
Je regarde devant moi, bien sûr. Mais on peut pas regarder devant sans tenir compte de ce qui s'est passé derrière. Moi, je pense que la route est plus claire lorsqu'on a une bonne notion de ce qui s'est passé avant. Donc, je prends en compte ce qui s'est passé, mais je m'arrête pas là. C'est pour ça que je reviendrai pas. Parce qu'on va tous vers l'avant, qu'on le veuille ou non.
Mais alors, quand vous regardez un petit peu vers l'arrière, qu'est-ce que vous avez appris?
J'ai appris énormément. Et je pense que tout ce que j'ai appris commence à se voir, j'espère. Voilà. C'est parce que j'ai essayé de me nourrir de tout ce qu'a pu m'apporter mes recherches, mes lectures, mes rencontres, ce que je peux assimiler à des passages, des moments difficiles, pour aujourd'hui proposer quelque chose qui, j'espère, est le fruit des leçons que j'ai tirées de tout ça. Voilà. J'espère, bien sûr.
Yeah. Toujours en survêt comme Jurgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jurgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, reparti mardi. Je rallume le spaghi si samedi. Appelle tes amis si samedi.
Toujours en survêt comme Jurgen Klopp.
ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Dispensaire à LA,
petit club à Barcelone,
coffee shop à Dame.
J'suis brisé comme porte.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos contraires. Ah,
parce qu'il y aura des pogos d'office. J'donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête dans les nuages et les avions. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Presse comme sur ta tweet. Train que ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac d'or. Concu dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud, allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un clip.
J'me sens lire comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu.
Grande bouffée, air pur, les clés sont perdues, où est la voiture?
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Cette émission est une rediffusion.
Social Club, Oxmo Puccino, avec le duo belge Caballero et Jean Jass dans VMDN sur RFI. Alors là, c'est drôle, parce qu'on disait à l'instant que vous étiez un petit peu l'enfant sage du rap et tout. Là, vous cassez votre image d'un coup, là, parce que ça, c'est quand même une apologie de la beuh.
Une apologie du cannabis thérapeutique, plus précisément. Ah. Oui.
Attention à la nuance, alors.
Ça reste, là encore, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que on appelait ça de la beuh, mais depuis qu'on commence à comprendre que ça guérit les gens et que ça rapporte des milliards de dollars dans le monde, on voit ça autrement. Et tous les pays qui ne s'y sont pas mis commencent à réviser les possibilités que peut offrir cette plante.
Vous êtes favorable à la légalisation du cannabis ?
Ben, c'est ce que je disais l'autre jour. Moi, j'ai un ami en Espagne dont le cousin a sa fille qui est atteinte d'un cancer de une leucémie, et grâce à des gélules, elle a recommencé à manger et a arrêté de prendre un sac de médicaments, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu de façon indirecte. Donc cette raison-là, multipliée par toutes les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques et d'autres maladies qui sont obligées de guérir par des médicaments qui sont plus dangereux que la maladie quelquefois, me donne une raison de pouvoir jeter un œil sur cette possibilité-là, oui, bien sûr.
Social Club, c'est le nom de cette chanson. Est-ce que vous faites partie du même club que Caballero et Jean Jass, Oxmo Puccino?
Oui, du club de l'amour, du club du partage, du club de l'humour aussi, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, sur mon album, je me suis permis des petits moments de légèreté, et je suis heureux d'avoir pu trouver des artistes qui puissent agrémenter ce côté-là de l'album, bien sûr.
Il y a beaucoup d'humour aussi.
Il y a beaucoup d'humour quand un album qui s'appelle La Nuit du Réveil et qui parle de ce moment où la vérité vous tombe dessus avec des conséquences qui peuvent durer et quelquefois douloureuses. Oui, les invités comme Caballero et Jean Jass font beaucoup de bien.
Alors, il y a aussi des chansons qui sont un petit peu plus lourdes, par exemple Trop d'amour. Lorsque vous évoquez les violences conjugales avec ces mots, il criait l'aimer, les bleus n'ont pas convaincu, tout le monde le savait, alors tout le monde s'est tu. Là, on est dans la bêtise du quotidien.
C'est plus le drame.
Ça peut arriver à tout le monde.
C'est plus le drame parce que, oui, ça peut arriver à tout le monde, je pense. Et je trouve ça plus dramatique que bête. Parce que même si bête renvoie au côté animal, c'est un drame. C'est un drame, oui. C'est un drame domestique. Bien sûr.
Pourquoi cette chanson maintenant, Oxmo Puccino? Parce que les violences domestiques, c'est vieux comme le monde.
Non, en fait, c'est une chanson sur tout le mal qu'on peut faire sous prétexte de donner beaucoup d'amour, d'après soi. Voilà. Et je pense qu'il faut un certain recul sur ce mot, sur ce sentiment qui est intouchable, qui est l'amour. Parce qu'à partir du moment où on peut tout justifier par amour, je pense qu'on rentre dans des zones qui nous emmènent dans le contraire totalement, et que ça a été assez peu abordé. Oui, ça a peu assez. Parce que là, tout de suite, c'est un tabou. L'amour est censé être la solution de tout. l'inatteignable, et donc forcément on n'a rien à dire dessus, ben voilà, moi j'ai un avis à donner sur le trop d'amour, parce que plus qu'ailleurs la modération peut être de mise ici.
La semaine dernière, en France, il y a eu le lancement du Grenelle des violences conjugales, hein, autour du Premier ministre Édouard Philippe et de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Vous avez l'impression que la prise de conscience progresse sur ce sujet ?
Oui, parce qu'on en parle. On en parle, donc c'est moins tabou. Et je pense qu'en parler est le début du chemin, bien sûr. Parce qu'en parler fait qu'on en parle aux enfants, aux jeunes, et que le changement va à long terme. Va commencer par là, parce que pour à sa partir d'un certain âge, on peut difficilement changer les choses.
Là, on est dans la politique, Oxmo Puccino. Est-ce que vous êtes un chanteur politique, précisément ? Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression, quand même, que le rap d'aujourd'hui est beaucoup moins revendicatif, mais beaucoup plus récréatif qu'auparavant ?
Bien sûr. À l'époque où il était revendicatif, c'était encore une musique de niche. C'était une musique qui était pratiqué par des acteurs qui ne faisaient que décrire un contexte inconnu du reste du public, ce qui fait que la description de ce contexte ressemblait à une dénonciation, parce que forcément on voulait pas entendre ces choses-là, et je pense que c'est le contexte qui en a fait une revendication du texte. Mais aujourd'hui, où le public s'est élargi, où il y a du divertissement, beaucoup d'argent en jeu, et qu'on y a ce rapport d'offres et de demandes, forcément, la situation n'ayant pas changé depuis l'époque où on revendique, entre parenthèses, les jeunes en ont marre de répéter et préfèrent s'amuser, et je le comprends très bien. Néanmoins, il y a toujours des artistes pour décrire ce que veulent entendre les autres.
Donc on s'amuse, on est passé à autre chose, mais les combats, ils sont toujours là, ils n'ont pas été gagnés.
Ils sont plus grands qu'avant. Ils n'ont pas été gagnés, non, bien sûr.
Plus grand qu'avant, ça veut dire que ça n'a servi à rien, alors, d'alerter pendant des années. Ça veut dire que la force de l'art n'est pas parvenue à ses objectifs.
Le rôle de l'artiste est de mettre le doigt à des endroits où le monde pourrait être vu d'une manière, d'une plus belle manière. Après, la traduction, l'interprétation se fera toujours du spectateur. Voilà. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'époque, on décrivait une situation, ça a paru comme de la revendication et même quelquefois de l'incitation. Et forcément, à force, voilà, on veut passer à autre chose.
Ha, 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 j'ai réussi ma life. Demain, je sais pas, mais aujourd'hui, j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qui vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yonkli, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être, mes ex me regrettent. J'ai réussi ma life, j'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après degré. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. Je rentre en boîte en Quechua, je suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life.
Aurait dit sur la rythmique à hey, hey. Koiba, Shiva, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Je sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis. Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, car ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Frimer, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Tu s'achètes pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life.
Ma life.
J'ai réussi ma life.
Malai, Oxmo Puccino sur RFI. Oxmo Puccino en duo avec Orelsan, un des duos qui figurent sur cet album La Nuit du Réveil qui vient de sortir chez Believe, album que 4 de nos auditeurs vont pouvoir gagner dans une poignée de minutes en répondant à la question du jour par message privé, hein, je le rappelle, à partir de notre page Facebook. Alors justement, Orelsan, Oxmo Puccino, là aussi vous venez quand même d'univers extrêmement différent.
C'est ce qu'on pourrait penser.
Bah oui.
C'est ce qu'on pourrait penser, mais... lorsque Orelsan est arrivé dans l'univers hip-hop, enfin musical, je vais dire français, je me suis reconnu en lui, dans le sens où il était complètement décalé, il n'avait pas la figure de l'emploi, il avait ce discours d'ancien loser, voilà, ce discours d'ancien loser assumé, et j'ai trouvé ça flamboyant, je trouvais ça beau. De continuer à aller vers la lumière malgré ce bagage, cet héritage, quoi. Je trouvais ça très beau. Et puis surtout son talent, très talentueux. C'est-à-dire qu'il avait ce truc de rap que peu de rappeurs ont. Voilà, cette maîtrise, cette culture aussi des années 90, mélangée aux années 2000. Et je me suis reconnu dans tout ça.
Oui, ce souci aussi du texte fort, un petit peu comme vous également, cette importance du poids des mots qui n'a pas toujours plu à tout le monde. Il est un petit peu moins consensuel que vous quand même, Orelsan, Oxmo Puccino.
Un peu moins consensuel. Oui, c'est vrai qu'il est dans une autre frontalité, mais c'est ce qui fait qu'on l'écoute avec plaisir, bien sûr. Il a une manière d'attraper l'oreille, ouais, c'est vrai.
Vous parliez tout à l'heure du souci aujourd'hui dans le monde du rap d'élargir son public avec le côté positif et le côté négatif que ça. Est-ce que la présence d'Orelsan sur ce disque, c'est pas justement aussi pour vous un moyen de toucher des gens qui n'ont pas forcément le réflexe Oxmo Puccino.
Qui n'ont pas le réflexe de...
Oui, de toucher un autre public que le vôtre.
J'ai pas très bien compris la question.
Voilà, est-ce que Orelsan, n'étant pas tout à fait dans votre univers, il vous permet pas aussi, à travers ce disque, de toucher des gens que vous ne touchiez pas jusqu'à présent?
Ah ben, en fait, si on regarde tous les participants, tous ceux qui ont participé à mon disque, de Louis Brodinski, qui vient de l'électro, qui travaille actuellement à Atlanta, d'Eric Truffat, qui vient du jazz, de Gaël Faye, qui vient du slam, et qui est devenu un romancier reconnu, ensuite Caballero et Jean Jass, qui sont des rappeurs belges de la nouvelle génération, pour finir par Orelsan, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est l'artiste qui me ressemble le plus dans tout ça. Et donc, je pourrais noter que nous sommes tous des entités particulières, et que forcément, dans tous ces artistes-là, Orelsan compris, il y a des personnes dans leur public qui ne me connaîtront pas, et qui, je pense, ont à gagner à me découvrir. Voilà. Donc oui, Orelsan va me permettre de toucher une partie de son public et vice versa. Enfin, dans l'autre sens, c'est moins évident. Mais tous les artistes qui ont participé à mon disque vont forcément me mettre en lumière chez les gens de leur public qui ne me connaissent pas. Oui. C'est assez logique, oui, bien sûr.
Puisque vous évoquiez Gaël Faye et son talent de romancier, oui. Est-ce que vous aussi vous auriez envie de vous lancer dans la grande aventure du roman?
Ben, moi, j'écris beaucoup.
Mais écrire une chanson et écrire un roman, ce sont deux exercices différents.
Bah, écoutez, moi, j'ai écrit un scénario déjà, qui est déjà sorti. J'en ai écrit un autre qui n'est pas arrivé à terme, ça a pris quelques années. J'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des recueils, c'est quelque chose. J'ai écrit un livre de citations et d'aphorismes que j'avais publié avant sur Twitter. Et la traduction de ce mouvement un peu tactique de commencer par prendre des notes sur Twitter pour l'imprimer, m'a pas donné envie de continuer sur un roman pour lequel j'ai assez de matière pour aussi, voilà. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué d'avoir à se justifier de toutes ces créations à cause d'une étiquette. Voilà.
Alors les réseaux sociaux, justement, puisque vous en parlez, Oxmo Puccino, est-ce que on peut réussir sa life comme on vous dit aujourd'hui, c'est-à-dire s'adonner à des plaisirs simples, hein, c'est ce que vous nous expliquez finalement chanson avec Orelsan. Pour ça, il faut aussi savoir prendre son temps. Est-ce qu'aujourd'hui, la société ne va pas trop vite sous la pression, justement, de ces réseaux sociaux?
Bien entendu. Et c'est libre à chacun, si on peut dire, d'aller à l'encontre de ça. Et c'est de plus en plus difficile parce que c'est une emprise de plus en plus forte. Ouais. Mais moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien de mieux que d'évoluer à une vitesse naturelle, bien sûr. Moi, cet album m'a pris 3 ans. J'ai retardé d'un an pour pouvoir en parler assez, pour qu'on l'écoute à sa sortie. Donc, c'est le temps que j'ai pris pour faire quelque chose qui me satisfasse au plus haut point. Et je pense que dans cette course à la consommation, on en parlait tout à l'heure, à la compétition, on oublie que le plus important, c'est d'abord d'être satisfait. Voilà. Et qu'on n'est jamais satisfait lorsqu'on est rempli que par le plaisir d'avoir effectué quelque chose en un laps de temps. Voilà. Et c'est là qu'on oublie l'émotion. Vous savez, notre époque, vous parlez tout à l'heure de compétition, et ça me permet de revenir là-dessus, c'est que notre époque, aujourd'hui, a tué l'émotion parce qu'elle a éteint le désir par la disparition de la patience. Voilà. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, tout à l'heure, vous me disiez d'aller à l'encontre de ça par la manière dont je vois les choses, comment j'essaie de m'en protéger, c'est qu'on est habitué à avoir tout de suite, et c'est pas la meilleure manière de pouvoir apprécier quoi que ce soit. Ouais, parce qu'on l'a pas désiré, on l'a pas attendu, on n'a pas connu cette frustration qui rend la chose importante. Donc voilà, on est tous sur des petites décharges électriques stimulantes, et on laisse rien de tout ça. C'est pour ça que je prends des notes tout le temps.
Ouais. Merci beaucoup Oxmo Puccino qui sera en concert le 22 septembre au stade Jean Bouin à Paris dans le cadre du festival Révolution, et ensuite une tournée à compter du 8 novembre. Vous commencez par Angoulême, il y aura ensuite Angers, Dijon, Grenoble, Montpellier, Romainville, Nantes, Mérignac à côté de Bordeaux, Marseille, Lausanne, Lyon, Reims, etc. J'en oublie, ouais. Ça continue en plus en décembre avec 3 dates parisiennes qu'on peut d'ores et déjà noter les 8, 9 et 10 décembre prochains. Et je rappelle évidemment l'album La Nuit du Réveil chez Believe, un album que 4 de nos auditeurs vont pouvoir gagner hein, en répondant comme promis par message privé uniquement à la question du jour. On va utiliser un réseau social, tiens, pour le coup, pour terminer, ça tombe bien, en l'occurrence Facebook. Alors la question est la suivante: quel est le titre de la chanson dans laquelle Oxmo Puccino rend hommage à ses parents? On l'a entendu tout à l'heure dans l'émission, et bravo à nos gagnants d'hier, Saskia de Berlin, Hugo de Barcelone, Delphine de Falls Church aux États-Unis, dans l'État de Virginie, Aina Mami d'Antananarive à Madagascar, bien sûr, et Dimon de Parakou au Bénin. Ils recevront donc le livre d'Emma Becker que nous avons reçu hier. La bonne réponse à la question d'hier était Justine. Merci beaucoup.
N'aie jamais peur de rien ni de personne. À la vie, va lever ton verre. Vivre est un poème.
Cette émission est une rediffusion.
Vivre est un poème, ça sonne bien après Oxmo Puccino, Alain Pilo, bonjour.
Ça pouvait pas être mieux, bonjour Jean-François, bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour.
Que je confirme avoir vu se ressourcer au Mali il y a une quinzaine d'années, ah oui, il est heureux là-bas, croyez-moi.
Voilà, ça on vous fait confiance à tous les deux. Donc c'était le duo mayennais Archimède hein, que l'on entend en ce moment. Et on peut dire que c'est une vraie décennie musicale hein, que ces deux frères fêtent aujourd'hui.
Nicolas et Frédéric Boinard, alias Archimède, sont les auteurs notamment de L'été revient, Le bonheur où je prends, pour celles et ceux qui les suivent depuis un moment, Pop Decennium et leur disque des 10 ans, fait de 12 titres réarrangés et 5 inédits, le tout enregistré dans un château près de Laval, chez eux. La vie ne mène à bon port que ceux qui se prosternent, chantent-ils dans un de leurs nouveaux morceaux. Au garde à vous, comment ont-ils fait pour être encore là 10 ans après?
On ne s'est pas trop prosterné, pourtant on est encore là, c'est-à-dire se prosterner, ça aurait été répondre aux sollicitations multiples à l'époque où on nous sommait de venir vivre à Paris, alors que nous on reste bon mayennais dans l'âme, non pas par calcul, stratégie ou manque d'argent, même si on serait tricard à Paris, mais parce qu'on aime bien notre ville. Donc on n'a jamais répondu aux sirènes, à la pression de venir habiter Paris pour être de toutes les soirées, de toutes les mondanités. On ne s'est pas prosterné de ce point de vue-là, ni d'aucun point de vue d'ailleurs, puisqu'on a toujours tracé notre voie pop sans vraiment infléchir notre position là-dessus. Quoi. Le dernier album ressemble peu ou prou au premier et vice-versa, donc on garde le cap. Quoi.
Il faut toujours être au garde à vous, être bien sous tout rapport, plaire à qui tient les rênes. La vie ne mène à bon port que ceux qui se prosternent.
On garde à vous Archimède qui il y a 10 ans sortait L'été revient et qui dans Pop Decennium la joue dans un esprit orchestral avec une fin revisitée, c'est-à-dire Frédéric.
Évidemment sur un disque qui fête nos 10 ans, on ressort entre guillemets nos tubes, les chansons que les gens nous ont écoutées un peu plus, et cette chanson-là on voulait lui donner un petit coup de jeune en fait, alors donc on a confié ça à deux réalisateurs qui sont Hubert Harel et Christophe Darlot. Nous ont proposé cette fin qui est vraiment bien, effectivement. On n'avait pas songé à ça. Nous, on voulait, je me souviens, il y a 10 ans, quand on a composé la chanson, on aimait ce dédoublement de batterie, en fait, sur la fin. Et eux, ils y sont allés à, vraiment au contraire de ce qu'on avait créé et ça marche vraiment hyper bien.
Archimède, l'été revient et parmi les nouvelles compositions Alain, il y a Dutronné.
Un néologisme qui m'a fait penser évidemment à Dutron, Jacques. Une révérence au chanteur, Nicolas ?
Un hommage au flegme et à l'attitude de Dutron, comme s'il n'avait pas vraiment choisi de faire ce métier alors qu'il le fait excellemment bien. Et c'est vraiment le charme de ce personnage. Il a des chansons que je trouve magnifiques, qu'elles soient légères ou chagrines. Il incarne ça à la manière d'un dandy, mais toujours avec un peu de nonchalance, comme si c'était pas important. En fait, c'est un peu la phrase de Gainsbourg. Voilà, c'est de l'art mineur, mais dans cet art mineur, il excelle. Et pour moi, c'est le meilleur entre tous parmi les chanteurs français. Donc, effectivement, on a transformé son patronyme pour en faire un verbe inédit, Dutronné, qui signifie en gros flémarder au bord de la Méditerranée.
Je dutronne à longueur de journée. Je dutronne, je ne sais faire que dutronner. Je dutronne dans l'espèce, je suis un surdoué. Je ne sais faire que dutronner.
Dutronné, Archimède, qui n'a pas écrit pour Dutron mais pour Hallyday. Alain, on leur doit À l'abri du monde sur son 48e album ou encore L'attente en 92.
L'amour est dans le pré est un autre inédit, dit à un moment que le meilleur dans certains livres, étonnamment, c'est leur préface. Alors, qu'est-ce qui pourrait être le meilleur étonnamment dans un disque, Frédéric ?
La pochette. Moi, j'ai acheté des disques sur la base d'une pochette, comme une bouteille de vin. Oh, l'étiquette, elle est belle et puis en fait, à l'intérieur, c'est pas bon.
C'était qui ?
Alors ça, je ne saurais pas dire. Mais ouais, ça m'est arrivé à l'époque des disques, en fait, où on trouve le visuel superbe. Je me souviens d'un disque de... Je vais être méchant parce que c'est Bruce Springsteen et j'avais acheté son disque parce qu'il y a une belle télé. J'avais été déçu. Il faudrait que je le réécoute. Peut-être que je serais très, très surpris maintenant. J'avais été déçu de ce disque. Mais voilà, ouais, peut-être que c'est ça. Des fois, la pochette peut induire en erreur ou mentir un petit peu. Ça peut arriver.
Une mauvaise nouvelle pour vous. Vous n'écrirez pas pour Bruce Springsteen.
Non, de toute façon, vu le niveau d'anglais que j'ai, même sans cette vacherie, on n'aurait jamais pu écrire pour lui.
L'amour est dans le pré, liminaire, l'amour est dans le préambule. On rêve d'une romance hors pair, c'est dans la routine qu'on bascule.
Archimède, extrait de Pop Decennium. Jusqu'à présent, d'ailleurs, tous leurs albums à Archimède sont entrés au top 50 la semaine de leur sortie. Et celui-ci ne faillit pas à la règle. À noter, entre autres, comme vous le disiez, Alain, que la présence d'Aldebert sur deux morceaux est à signaler. Merci. Archimède qui sera en concert le 18 septembre au Showcase à la Fnac de Laval, à Château-Gontier le 5 octobre, toujours dans le département de la Mayenne, dans l'ouest de la France. Le 24 à Marseille, dans le sud. Le 25 à Lyon, un petit peu plus au nord. Et le 26 à Besançon, dans le département du Doubs, cette fois-ci, dans l'est de l'Hexagone. Dans un instant, le journal sur RFI, à demain, avec la romancière Emmanuelle Pirère, qui publie Chimère aux éditions de l'Olivier, et vous m'en direz des nouvelles.